Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Virage, fugue et protégez-vous. Au programme, au fil du temps, de la maltraitance à la bienveillance. La compensation carbone, un leurre. La communauté LGBTQ+ cubaine défile pour fêter l'adoption du mariage de même sexe. Et pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager? Bonne écoute!
Au fil du temps, de la maltraitance à la bienveillance, un texte de Frédéric Charret, paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage. Balados, vidéos, site web, l'Ordre des psychologues du Québec lance, au fil du temps, un projet multimédia pour sensibiliser la population aux impacts du vieillissement du cerveau. L'objectif est de favoriser la bienveillance auprès des personnes aînées en s'attaquant à la maltraitance psychologique qui découle trop souvent du manque de connaissances chez le personnel soignant et chez les proches aidants. L'idée maîtresse, c'est d'aider la compréhension du grand public de ce que c'est vieillir. Vieillir en santé comme vieillir pas en santé. Démystifier aussi la réalité des gens qui entourent les personnes vieillissantes, explique à Virage Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, au sujet de l'initiative. Dans les 5 sous-sections qu'il compose, le site web propose plusieurs vidéos de témoignages, d'entrevues et de tables rondes. Les visiteurs peuvent s'informer sur le vieillissement normal du cerveau et les troubles neurocognitifs, ainsi que s'outiller pour aider les personnes vieillissantes et les proches aidants. Une culture d'empathie. Au fil du temps, prend notamment racine en 2021 lors de la consultation sur l'élaboration du 3e plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. La crise de la COVID-19 et l'embauche de nouveaux employés dans le réseau public ont rendu nécessaire le développement d'un projet éducatif, plaide l'Ordre. Ce dernier recommande alors de s'assurer que le personnel soignant et les aidants naturels reçoivent les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement psychologique et mental des personnes aînées, en plus de créer une culture d'empathie. Celle-ci se veut un remède à ce que la docteure Groux nomme la maltraitance qui s'ignore. Quand le cerveau vieillit de façon pathologique, qu'on a des troubles neurodégénératifs, des démences, le cerveau fonctionne de façon très particulière. Si on ne comprend pas ce qu'il se passe sur les plans affectifs et cognitifs, on ne peut pas bien traiter. Prenons le cas fictif d'un patient atteint d'aphasie. En raison de ce dysfonctionnement du langage, il ne répond pas à la question que lui pose son nouvel intervenant. Le croyant malentendant, ce dernier répète la demande de plus en plus fort, au point de lui crier au visage. Sans surprise, le patient a une réaction défensive de peur et bouscule l'intervenant. L'intervenant ne connaissait pas l'existence de cette maladie. Il n'a peut-être pas eu accès à l'explication d'un professionnel concernant la définition de l'aphasie et son impact sur le comportement. Il y a donc eu maltraitance, et ce, sans mauvaise intention ni surcharge de travail du côté de l'intervenant, explique l'Ordre dans un mémoire déposé au gouvernement provincial en 2020. L'incompréhension ouvre la porte à une mauvaise interprétation des intentions et des comportements de la personne hébergée. Résultat, des réactions inadéquates, voire négatives, des gens qui l'entourent ou en prennent soin, prévient l'ordre dans son mémoire. Ce qui peut s'en suivre, c'est la médication, même la contention ou l'isolement, ajoute la docteure Groux. Dans les CHSLD, il y a énormément de médications qui se donnent. Peut-être que si on comprenait mieux ce qu'il se passe dans le cerveau de la personne et qu'on intervenait mieux, on diminuerait le recours à la médication. Aider les proches. Certains troubles, comme la démence frontotemporale, causent des changements santé comportementaux dramatiques. Des changements qui peuvent heurter la famille et les proches aidants. Ils sont eux-mêmes déchirés émotionnellement parce que leurs proches ont des réactions qu'ils prennent très personnellement alors que ce ne sont plus des réactions raisonnables ou raisonnées. D'où l'importance de démystifier, d'éduquer et de sensibiliser. À partir du moment où les proches comprennent que ce n'est plus l'expression de la personne, mais bien d'un problème de santé, la perspective change. Ça fait mal, ça demeure difficile à vivre, mais on le prend moins personnellement. Même en l'absence de pathologie, les effets du vieillissement peuvent mener à des incompréhensions et des tensions. Même quand on vieillit en santé, il y a des deuils à faire, prévient Christine Groux. Il faut comprendre ce qu'il se passe sur le plan affectif. Pourquoi les personnes vieillissantes sont plus anxieuses? Pourquoi les personnes vieillissantes présentent beaucoup d'éléments dépressifs? Tant qu'on n'est pas là, on a de la misère à se représenter le vécu d'une personne. Le projet se veut évolutif et devrait se bonifier dans les prochaines années. Les visiteurs pourront y trouver de plus en plus de renseignements pour aider leurs proches atteints d'un trouble neurocognitif ou qui vivent avec de l'anxiété. C'était, au fil du temps, de la maltraitance à la bienveillance, un texte de Frédéric Charret, paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage. La compensation carbone, un leurre, un texte de Nathalie Hensley, paru le 1er juin 2023 dans le magazine Virage. La compensation carbone peut-elle apaiser les remords des adeptes de voyages de plus en plus conscients de l'environnement? Selon les récents sondages, la majorité des Québécois seraient enclins à changer leurs habitudes pour réduire leur empreinte écologique. Prêts à réduire leur consommation, à manger moins de viande et à poser les bons gestes au quotidien, comme la récupération et le compostage. Cependant, pour les personnes qui ont le privilège de voyager en avion, voyager moins demeure un pas encore difficile à franchir, sachant pourtant que nos escapades pèsent lourd dans le bilan de nos émissions de gaz à effet de serre, GES. Pour apaiser les remords des adeptes de voyage de plus en plus conscients, se présente alors la solution de compenser les GES générés par le vol ou la croisière. Qu'est-ce que la compensation carbone? L'idée est de calculer la quantité de CO2 émise par le déplacement, puis de compenser en payant pour la plantation d'arbres qui vont capter une quantité équivalente de CO2 pendant leur durée de vie. Certains organismes offrent aussi des crédits carbone, contribuant à des projets scientifiques ou éducatifs qui peuvent être intéressants. On peut également compenser l'empreinte d'un événement, de ses déplacements en auto ou son empreinte carbone annuelle totale. Est-ce efficace? Oui. L'arbre, par le processus de photosynthèse, séquestre le carbone de la molécule de CO2 et rejette l'oxygène nécessaire à la vie humaine. La compensation carbone, est-ce un leurre? C'est avec ce carbone qu'il crée l'énergie et la matière lui permettant de croître tout au long de sa vie. Mais attention, pour séquestrer la quantité de CO2 promise, cet arbre doit être en vie pendant 100 ans, ne doit pas être victime d'exploitation forestière ou de feux de forêt, ni de maladies ou d'insectes ravageurs. Il s'avère que ces conditions réunies se font de plus en plus rares. Il est donc important de faire affaire avec des organismes fiables et certifiés comme Planète Air, Carbone Boréal ou Carbone Skol Air, qui assurent un suivi des arbres plantés. Est-ce que ça compense? Non. Les GES émis pendant votre vol sont réels et immédiats et contribuent au dérèglement climatique et au réchauffement des océans dès maintenant. De plus, ils resteront dans l'atmosphère des dizaines, voire des centaines d'années, et c'est l'accumulation de ce surplus de GES qui perturbe le climat. L'arbre planté aura, dans les meilleures conditions, capté la même quantité de GES, mais sur une période de 100 ans, et très peu pendant les 20 premières années. Il faut savoir que les scientifiques du climat affirment que pour conserver des conditions viables sur la planète, on doit diminuer de moitié nos émissions de GES d'ici 2030. Et ça, c'est demain matin. En somme, la plantation d'arbres est un geste très positif, tout comme les dons à des organismes environnementaux et l'engagement citoyen lorsqu'on a à cœur l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Mais la compensation devrait être utilisée pour les GES que nous n'avons pas le choix d'émettre, par exemple pour se déplacer au travail. Pour le reste, il vaudrait mieux réduire à la source, puisqu'il n'y a pas de moyen d'effacer nos GES. Même les technologies de captage n'en sont encore qu'à leur balbutiement et ne réussissent qu'à prélever d'infimes quantités. La carboneutralité des entreprises, de la fausse publicité. On voit de plus en plus d'entreprises afficher leur carboneutralité ou leur engagement à devenir carboneutre. Méfiez-vous, car la grande majorité des programmes de carboneutralité repose sur la compensation et peu sur la réduction. Il est impossible de produire un vêtement ou un appareil électronique de façon industrielle à l'autre bout du monde sans émettre de grandes quantités de GES, considérant l'extraction, la fabrication, l'emballage et le transport. Soyez une personne avertie. Demandez quelle est la portion réelle réduite par rapport à celle qui est compensée. Il n'y a pas de magie. La sobriété s'impose comme moyen de diminuer son empreinte environnementale dans les voyages comme dans les achats. Compenser, c'est bien, mais réduire, c'est mieux. Doit-on arrêter de voyager? Décision difficile lorsqu'on arrive à la retraite et qu'on a économisé pour voir du pays. Une piste intéressante pour diminuer la quantité de voyages internationaux, planifier un séjour sur deux dans une région du Québec il y a de nombreuses façons de se dépayser ici, le Québec proposant de beaux décors de mer et de montagne. De plus, l'offre d'événements et de festivals internationaux est impressionnante, présentant les musiques, films, mets et cultures de partout. C'était « La compensation carbone, un leurre », un texte de Nathalie Hensley, paru le 1er juin 2023 dans le magazine Virage.
La communauté LGBTQ+ cubaine défile pour fêter l'adoption du mariage de même sexe. Un texte de l'agence AFP paru le 15 mai 2023 dans le magazine Fugue. Les manifestants et manifestantes ont fêté l'approbation en septembre 2022 du nouveau Code de la famille qui légalise le mariage des couples de même sexe, la filiation élargie et la GPA. Quelques 200 personnes ont défilé samedi 13 mai à La Havane contre l'homophobie et la transphobie, célébrant au rythme de la musique traditionnelle conga la légalisation du mariage des couples de même sexe adoptée dans l'île en septembre 2022. Scandant « Le socialisme oui, l'homophobie non », les manifestants et manifestantes ont fêté l'approbation en septembre 2022 du nouveau Code de la famille qui légalise le mariage des couples de même sexe, la filiation élargie et la GPA, faisant de Cuba le pays le plus progressiste en la matière en Amérique latine. Selon des statistiques officielles, 745 couples de même sexe ont célébré leur union depuis l'adoption du nouveau Code. C'était une dette du processus révolutionnaire envers la communauté LGBT+, a estimé à l'AFP Anna Clara Leon, étudiante en sociologie de 21 ans, bannière arc-en-ciel nouée autour de la taille. Plusieurs des thèmes inclus dans le nouveau code restent sensibles à Cuba, où la société est encore empreinte de machisme et où le gouvernement communiste a ostracisé les personnes LGBT dans les années 1960-1970, avant de faire amende honorable. Les évêques catholiques ont par ailleurs rejeté le texte. « Je suis gay et Dieu m'aime », pouvait-on lire sur une pancarte brandie tour à tour par plusieurs manifestants. La fille de l'ex-président cubain, Raúl Castro, Mariela Castro, qui promeut la lutte pour les droits de la communauté LGBT+ depuis plus de 3 décennies, ouvrait le cortège placé sous protection policière. C'est une chose que toutes les personnes homosexuelles attendaient, pouvoir vivre pleinement leur relation de couple, s'est félicité Yolande Ballon, vice-coordonnatrice nationale du réseau Transcuba. C'est la conga de la fierté. Nous, les Cubains, nous aimons la fête, la conga, le divertissement, et ainsi nous pouvons exprimer notre diversité, s'est réjouie Diana Pena, 31 ans, responsable de la mobilisation des jeunes pour Transcuba. C'était la communauté LGBTQ+, cubaine, défile pour fêter l'adoption du mariage de même sexe. Un texte de l'agence AFP, paru le 15 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager? Par Justine Momini, le 20 avril 2023, tiré de la revue Protégez-vous. La capacité des enfants du primaire à se débrouiller seuls en eau profonde a fortement chuté depuis la pandémie. Les cours de natation ont repris l'automne dernier. Il manque de place, mais cela vaut la peine d'inscrire votre enfant sur une liste d'attente et d'inciter vos ados à devenir moniteurs de natation ou sauveteurs. Piscine fermée, manque d'animateurs, liste d'attente interminable, les parents le savent. Inscrire ses enfants à des cours de natation depuis le début de la pandémie n'est pas de tout repos. Cependant, la situation revient progressivement à la normale, selon Éric Hervieux, président de l'Association des responsables aquatiques du Québec, ARAQ. Y a-t-il assez de cours? Les piscines ont fermé en mars 2020 et ce n'est que l'automne dernier que les cours de natation ont repris de façon régulière. L'an dernier, l'offre de cours avait baissé de près de 40 % par rapport à l'avant-pandémie. Aujourd'hui, il manque encore de 10 à 15% pour revenir à la normale, dit Éric Hervieux. Selon lui, la situation sera rétablie d'ici fin 2023. À titre d'exemple, Québec Natation, la plus grande école de natation à Québec, aurait pu donner des cours de natation à 4 500 élèves pour la session de ce printemps, mais elle n'a pu offrir que 2 800 places par manque de personnel, rapporte Richard Bernier, propriétaire de l'entreprise. Une des raisons du manque de cours vient des parents eux-mêmes. Plusieurs inscrivent leurs enfants dans différentes écoles de natation pour être sûrs de trouver une place. En agissant ainsi, ils bloquent les places pour d'autres enfants, avertit Richard Bernier. Avertir l'école que l'enfant ne viendra pas, car il a un cours ailleurs, permettrait d'offrir la place à une autre personne. Québec Natation a actuellement 6 000 jeunes inscrits sur sa liste d'attente, faute de places disponibles. Moniteurs et sauveteurs, formation gratuite et job d'été. La principale raison du ralentissement des cours demeure toutefois le manque de personnel. En effet, la pandémie a freiné la formation de sauveteurs et de moniteurs. La plupart d'entre eux commencent à travailler vers l'âge de 16 ans, mais ils changent souvent d'emploi vers 19 ou 20 ans, au moment d'entrer à l'université. Avec la pandémie, nous avons perdu les deux tiers de nos employés sans pouvoir renouveler le bassin de travailleurs, mentionne Éric Hervieux. Pour pallier cette pénurie, le gouvernement du Québec a octroyé l'été dernier un financement de 21,5 millions de dollars pour rendre gratuite la formation de sauveteurs et de moniteurs et encourager de jeunes nageurs à se former dans les centres aquatiques agréés. La situation est donc en train de s'améliorer. Avant la pandémie, selon ce qu'indique la Société de sauvetage du Québec, plus de 5 000 jeunes suivaient la formation de sauveteurs chaque année. En 2020, ce nombre avait dégringolé à 2 500. Et en 2021, 4 500 personnes ont repris la formation. Devenir moniteur ou sauveteur pourrait d'ailleurs intéresser des adolescents à la recherche d'un emploi. Les centres aquatiques sont toujours à la recherche d'employés. Un jeune qui entame sa formation est sûr d'avoir du travail, affirme Éric Hervieux. Où inscrire son enfant pour un cours de natation? Depuis janvier 2023, ce n'est plus la Croix-Rouge qui s'occupe des programmes de cours de natation des enfants, mais la Société de sauvetage du Québec. Avant, celle-ci s'occupait uniquement des cours destinés aux sauveteurs et moniteurs de la province. La Société de sauvetage du Québec propose le programme « Nager pour la vie », offert partout au Québec dans près de 200 centres aquatiques différents. À noter, le nom des cours a changé. Il est conseillé de consulter le document d'équivalence des différents niveaux disponible sur la page Internet de la Société de sauvetage. Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, suggère d'inscrire son enfant le plus tôt possible. La plupart des installations favorisent actuellement les réinscriptions, déclare-t-il, et priorisent les personnes qui étaient inscrites à la session précédente. Éric Hervieux incite aussi les parents à procéder à l'inscription malgré les listes d'attente. Certains gestionnaires de centres aquatiques peuvent ouvrir davantage de cours s'il y a beaucoup de demandes, précise le président de l'ARAQ. Richard Bernier de Québec Natation ajoute que les sessions d'été sont habituellement plus tranquilles dans les centres aquatiques. Davantage de places seront disponibles dans quelques mois. Il est également possible de regarder du côté de l'Association des camps du Québec, ACQ, qui offre parfois des camps aquatiques. Si un cours n'est pas disponible pour la session souhaitée, Reynald Hawkins suggère aux parents d'inscrire leur enfant à d'autres sports aquatiques, comme le plongeon, la nage synchronisée ou le water polo, pour qu'il soit davantage à l'aise dans l'eau. Dans tous les cas, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec appelle à la prudence. Lorsqu'un enfant commence à marcher, les parents lui apprennent à tenir systématiquement la main d'un adulte pour traverser la rue, dit-il. On doit faire la même chose avec l'eau. Il ne faut pas laisser un enfant se baigner sans surveillance. Dans un cas de noyade sur deux, la personne était seule au moment de l'accident. Des chiffres alarmants. Reynald Hawkins craint l'impact de l'absence, même temporaire, des cours de natation sur la capacité des jeunes à nager. Il en prend pour preuve les derniers résultats du programme Nager pour survivre. Mis sur pied en 2016, ce programme permet d'évaluer l'habileté d'élèves du primaire de 8 ans et plus à survivre à une chute inattendue en eau profonde grâce à de bons réflexes. Ce programme se donne actuellement de façon volontaire, sous forme de sortie scolaire pour les écoles primaires qui choisissent d'y participer. Or, selon des données publiées par le réseau aquatique Drummondville, RAD, le taux de réussite du programme est passé de 58 % en 2019 à 34 % en 2022. Il y a une différence entre se baigner et savoir nager, explique Reynald Hawkins. Ma plus grande peur est de voir augmenter le nombre de noyades dans les années à venir. Éric Hervieux, de son côté, remarque également que les jeunes sont moins à l'aise dans l'eau. Lorsqu'on a repris les cours, beaucoup d'enfants ont dû recommencer deux fois le même niveau, dit-il. Il y a un rattrapage à faire, une mise à niveau, mais c'est assez normal.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et Serge Hamelin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.